Merci Madame la Présidente. Je salue la délégation irlandaise de sa présence, de sa qualité et j'espère que nous allons avoir un entretien constructif autour d'un certain nombre de questions importantes soulevées par la liste de questions. Je dois traiter aujourd'hui les questions 2 et 5. La question 2 concerne la Commission irlandaise des droits de l'homme et de l'égalité. J'ai lu attentivement le rapport de l'État-parti, j'ai lu également attentivement la réponse de l'État-parti à la liste des questions et j'en conclus que cette Commission irlandaise des droits de l'homme remplit convenablement sa mission. Elle bénéficie du statut A, c'est-à-dire qu'elle répond entièrement au principe de Paris. Les fonds qui sont alloués à cette commission sont en perpétuelle augmentation. D'après les écritures de la délégation, nous atteignons des fonds d'un montant total de 32 millions à peu près d'euros qui lui ont été alloués entre 2015 et 2019. Son budget annuel a augmenté pour atteindre 6 millions à peu près, encore une fois, approximativement 6 millions d'euros en 2020. En 2022, nous atteignons 7 millions et demi d'euros, donc sur le plan de la contribution financière au fonctionnement de la Commission. Je crois que les choses sont tout à fait convenables. En revanche, sur le plan des missions de la Commission irlandaise des droits de l'homme, je voudrais poser deux questions. Normalement, il est dans les attributions d'une commission de ce type de pouvoir visiter les centres de détention, les lieux de détention dans les États parties. Donc la question que je pose, est-ce que la Commission irlandaise des droits de l'homme, d'après la loi, a la possibilité de surveiller les lieux de détention, c'est-à-dire les prisons, peut-elle, par exemple, effectuer des visites non annoncées? La deuxième question que je voudrais poser, toujours à propos de la Commission, c'est quel est l'impact de l'activité de la Commission sur les plaintes individuelles des individus qui se plaignent d'atteinte à leurs droits, c'est-à-dire quel est son rôle dans l'assistance des victimes, dans leur conseil, dans leur représentation éventuelle auprès des tribunaux irlandais. Je passe maintenant à la question 5. Cette question a été soulevée précédemment par les précédentes recommandations du Comité des droits de l'homme et elle concerne les opérations dont a parlé tout à l'heure Madame Tigrouja, les opérations de symphysiotomie pratiquées entre 1944 et 1987 sur 1500 femmes sans leur consentement et sans qu'il y ait eu lieu à des poursuites des médecins responsables de ces opérations qui ont été très préjudiciables pour les femmes, puisque ces femmes en ont gardé des séquelles psychologiques, des séquelles physiques graves. Et dans ces réponses, l'État-parti nous donne trois éléments. Le premier élément, c'est que les faits en question ont fait l'objet d'enquêtes ayant abouti à trois rapports indépendants. Le rapport Walsh, le rapport Murphy et le rapport Clark, qui ont été établis entre 2013 et 2016. La question que je voudrais... D'abord, c'est excellent ce qui a été fait, c'est les enquêtes et les rapports, mais la question que je voudrais poser est la suivante. Comment expliquer le retard entre les faits et les rapports qui ont été établis très longtemps après? Pourquoi ce retard? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les femmes victimes et les rapports de l'État parti nous disent qu'ils sont au nombre de 399. Donc les femmes victimes, les 399, ont bénéficié d'indemnisations d'un montant total de 29,8 millions d'euros. Qu'elles ont également bénéficié de services médicaux gratuits. Ce qui suffit, et là vous utilisez l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui suffit à satisfaire à toutes les obligations de réparation qui auraient pu peser sur l'État. Les questions que je voudrais poser à ce propos sont les suivantes. 399 sur 1500, pourquoi ? Et les familles des victimes ont-elles pu bénéficier d'indemnisation ? Enfin, le troisième élément et le dernier. Le rapport Murphy, le rapport Clark, ainsi que la Haute Cour soulignent qu'il n'est pas possible qu'un tribunal juge nécessaire d'obtenir le consentement d'une patiente dont les jours sont en danger à cause d'un obstacle à l'accouchement. C'est-à-dire que nous avons des patientes qui sont risquent un très 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 grand risque pour leur vie. Et donc l'idée c'est de dire que on ne peut pas avoir leur consentement parce que elles ne sont pas capables de donner ce consentement-là, et il faut donc les sauver, il faut sauver leur vie. Donc cette intervention, d'après l'État parti et d'après le rapport Murphy, etc., cette intervention avait une justification, et on ne peut pas considérer que les médecins ayant pratiqué cette intervention à l'époque doivent aujourd'hui être punis. Ça serait injuste parce qu'ils ont fait ce qui était en leur possibilité de faire et ils ont respecté leur déontologie en quelque sorte. La question que je voudrais poser est la suivante. Est-ce que le non-recours aux césariennes, par exemple, qui était pratiqué et qui était connu, est-ce qu'il s'explique pour des motifs religieux ? Est-ce qu'il y a derrière cette opération avec de très nombreuses victimes des motifs religieux qui pourraient expliquer la situation. En tout cas, il est quand même bon que l'État ait déjà fait un progrès dans les enquêtes, mais il reste quand même le problème de l'immunité qui est là, et ce dossier de l'impunité reste toujours ouvert. Merci, madame. J'ai terminé.